C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
L'histoire avec un grand I, c'est certes des dates, des lieux, des frontières, des batailles, c'est d'abord et avant tout des personnes. Alors on a déjà fait défiler la vie de beaucoup dans cette émission, Léonard de Vinci, Magellan, Angela Merkel et son tapis persan par exemple. Attardons-nous aujourd'hui sur un personnage de légende, à la vie romantique et rocambolesque, Cléopâtre, reine d'Égypte née en 69 avant Jésus-Christ. Elle aura en 39 ans d'existence marqué durablement l'histoire et donné matière à plusieurs siècles de romance. Et pour en étudier tous les détails, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Karine Rinona.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Aubelin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors commençons l'émission par remettre un peu de contexte historique autour de cette personne. De qui hérite-t-elle? Qu'est-ce qui l'amène à occuper le trône d'Égypte, cette Cléopâtre IV?
C'est une surprise déjà que quand on regarde d'où vient Cléopâtre, de se dire que cette femme finira par diriger un des pays les plus puissants de son époque. Cléopâtre née dans un petit milieu modeste, fille de Cléomène et d'Hyménèpe, donc sa mère et son père, ils venaient d'un milieu modeste. Son père était ouvrier du bâtiment et construisait moult pyramides. D'ailleurs, à la base, ils voulaient l'appeler Cléopâtre en hommage à son métier. Mais
ça n'a pas été accepté en préfecture.
Non, la préfecture avait refusé forcément pour les intérêts de l'enfant.
Et interdiction d'avoir de jeux de mots, voilà.
Donc, elle est issue d'un milieu modeste. Comment démarre sa vie? Quel enfant elle est?
Une vie de fille qui travaille dans le bâtiment. Hein. Effectivement, elle suit son papa sur les chantiers. Cléopâtre dépeinte sur des, en tout cas on le voit sur les sculptures dont on a gardé la trace aujourd'hui, des mains calleuses. Hein. Elle a beaucoup travaillé.
Des mains calleuses et des mains immenses. Enfin, elle a des mains disproportionnées par rapport à son corps.
Hein. Oui.
De par le fait qu'elle travaille la pierre depuis son plus jeune âge, et donc ça se voit sur toutes les gravures la dépictant. Elle a des mains d'une très bonne taille.
Est-ce que l'école est obligatoire à cette époque-là? Ou est-ce qu'elle apprend la vie auprès de son père et des pierres?
En tout cas, l'école est obligatoire, oui, mais au sein de l'ordre dans lequel on est. Cléopâtre est donc dans l'ordre des ouvriers en bâtiment. Elle y est formée dès son plus jeune âge et elle y est destinée à la base. Et donc oui, elle suit la voie classique de son père et de sa mère d'ailleurs. Voilà, on se marie aussi entre gens du même ordre, voilà,
tout à fait. Cléopâtre donc n'est pas pratique, parce que c'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas changer d'ordre dans l'Égypte de cette époque. Ce n'est pas possible. C'est pas quelque chose qui est usuel. Ou alors dans de très très rares cas, mais s'il y a des problèmes à la préfecture, ça peut arriver que la préfecture se trompe d'ordre, mais dans d'autres c'est très rare. Et Cléopâtre, elle essaie de trouver un peu de sa place dans cet ordre. Bon, alors forcément, elle a bossé sur son premier de chantier de pyramide à 6 ans. À 10 ans, elle est nommée responsable d'une section et elle met un peu de sa fantaisie qui la caractérise dans ses édifices. Elle grave son nom à plusieurs endroits sur des pyramides. D'ailleurs, on peut encore les voir si vous visitez les pyramides de Khéops aujourd'hui. Il y a le nom de Cléopâtre, adolescente, qui est gravé dans ces pyramides. Elle fait des petits dessins, des motifs, et donc voilà, elle met un peu de fantaisie dans les constructions de l'époque qui étaient pourtant assez.
On
assez
lui doit le premier sphinx.
Mais oui, le premier sphinx, c'était elle. C'était en hommage à son chat.
Il était tout petit, d'ailleurs. Hein. Il faisait pas plus de 30 cm de haut sur 50 cm de profondeur. C'était le premier essai. Puis après, elle a réussi à augmenter sa taille quand elle a poursuivi sa carrière.
Elle avait 10 ans, je crois, sur ce premier sphinx, au moment où... D'où la taille.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, une fois chef de section, est-ce qu'elle entreprend des œuvres plus grandes ou est-ce qu'elle se spécialise dans un type d'œuvre en particulier?
Alors, en fait, c'est vrai qu'après ces 10 ans, après ce premier sphinx, elle a créé beaucoup de jalousie chez ses camarades de l'ordre qui avaient son âge. En plus, les adultes l'adoraient, elle était vraiment rigolote, hein, comme on disait, elle apportait de la fantaisie. Il y a une expression qu'elle aimait bien, c'était mettre la main à la plâtre.
On l'appelait encore Cléopâtre, hein, même si la préfecture avait rejeté l'idée.
Bien sûr.
C'était son nom d'usage.
Voilà, d'où cette expression qu'elle aimait utiliser en autodérision, finalement. Elle aimait beaucoup donc travailler le plâtre. D'ailleurs, parce que à l'époque, c'était la plâtre, hein, c'était un nom féminin, ça a changé par la suite. Donc c'était mettre la main à la plâtre. Et aujourd'hui, on dit le plâtre, bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec ce plâtre, elle s'est lancée dans des ouvrages de plus en plus osés. Ce qui plaisait au début, mais qui a été de plus en plus difficile à accepter. Et ses camarades jaloux en ont profité pour un peu rabaisser son travail.
Elle avait une haine de la géométrie. Les formes trop carrées, trop géométriques, elle n'aimait pas ça. Et donc les pyramides, ce n'était pas son truc.
Non.
Les obélisques non plus d'ailleurs.
Non, non. Mm-hmm.
Non, 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 non. Et c'est pour ça qu'elle se lance dans le sphinx, qui est un, bon, comme je dis, un hommage à son petit chat. Mais elle fera aussi d'autres hommages. Alors on a perdu beaucoup de ses œuvres ont été détruites pour des raisons qu'on évoquera ensuite, mais voilà, elle avait fait des grands oiseaux de pierre, elle avait fait des grands, il y avait des palmiers de pierre aussi qui avaient pour but d'être des hommages aux dieux, mais aussi des hommages à la nature.
Et ça crée de l'ombre aussi, c'était pratique.
Dans un pays aussi chaud que l'Égypte, évidemment, ça crée de l'ombre.
Ok, du coup, on a quelqu'un qui est finalement assez isolé, si ses camarades qui l'entoure à son âge sont plutôt, je suppose, jaloux et jalouses d'elle. Comment est-ce qu'elle le prend et à quel point est-ce que ça va façonner sa personnalité?
Effectivement, elle grandit dans cette jalousie. Alors, effectivement, c'est ses camarades hein, qui lui instaurent ce climat. Les adultes l'adorent, hein, comme vous l'aviez dit, je crois, Karine.
Oui.
La petite Cléopâtre est très appréciée. On voit déjà en elle la future dirigeante de l'ordre du bâtiment en Égypte. Mais la raillerie des enfants de son âge va la faire se décider à partir et à voyager à travers l'Afrique, mais aussi l'Europe. Et dès ses 15 ans, elle arrive dans l'Empire romain où elle rencontre Marc-Antoine.
Marc-Antoine, qui avait entendu parler de cette jeune ouvrière en bâtiment et qui voulait, lui, révolutionner l'architecture de la Rome antique.
Marc-Antoine, est-ce qu'on peut préciser qui c'est pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce personnage?
L'empereur romain précédent Jules César, à qui on doit beaucoup d'édifices de Rome, particulièrement. Et donc il lui fait une proposition. Il aimerait construire un bâtiment qui représente la grandeur de Rome. Et elle lui proposera le Colisée.
Le Colisée. Donc le Colisée, c'est à l'origine des plans de Cléopâtre.
Des plans et une réalisation.
Enfin,
pas avec ses deux mains, évidemment. Quoique, elle a...
Au départ, elle souhaitait
la main à la plâtre.
Oui, exactement. Elle voulait, selon son expression, effectivement, mettre la main à la plâtre. Elle était comme ça, Cléopâtre. Mais elle dirigeait en tout cas les travaux du Colisée, et ce sur les 25 années qui ont marqué l'édification du Colisée.
Mais alors c'est pareil, parce que quand même elle est morte à 39 ans, on le rappelle, donc 25 années, ça fait quand même une bonne partie de sa vie,
ça,
Alexandre.
Oui, mais elle a repris les travaux.
Ouais.
Les travaux avaient commencé un petit peu avant qu'elle les prenne, c'était mal parti.
Ouais.
Et c'est pour ça que Marc-Antoine lui a proposé le... Donc elle, ouais, oui, oui.
Donc elle arrive un peu sur ce projet en tant que sauveuse, en fait.
Oui, 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 oui,
ça
oui.
Part mal et on a besoin d'une experte pour redresser la barre.
C'est ça, c'est ça. Et en 5 ans seulement, c'était mal parti pendant 20 ans, et en 5 ans seulement, elle a réussi à redresser la barre.
D'une main de plâtre.
D'une main, voilà.
Et c'est marrant parce que Cléopâtre, comme on l'a dit, a une aversion pour les formes géométriques. Le Colisée, qui a une forme ovale, Et là où Cléopâtre est forte, c'est qu'elle arrivera à en faire un hommage à la vie. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Colisée d'ailleurs, parce que le Colisée était une pâtisserie de la Rome antique qui avait cette forme. Et Cléopâtre s'inspirera de cette pâtisserie pour le design du Colisée. Et en fait, malgré sa forme géométrique, c'est aussi un hommage.
Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a accepté de poursuivre le Colisée, c'est qu'elle est passionnée de pâtisserie, Cléopâtre.
C'est une de ses autres passions, effectivement. Ouais. Une autre anecdote, je sais pas si, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que c'est intéressant de le comment dire, de pointer ça pour les auditeurs. Je sais pas si vous avez une représentation du Colisée aujourd'hui. Vous voyez, on dirait qu'il manque un bout. Il ne manque pas un bout. Il a été construit comme ça.
Il a été construit comme ça, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que toute la façade est du Colisée n'a jamais été. Il n'avait pas pour vocation d'être fermé. On pense qu'il manque un bout, que ça s'est effondré par la force du temps. Pas du tout. Cléopâtre déteste les formes symétriques, géométriques, et elle voulait quelque chose qui dénote.
Et c'est pour représenter un Colisée qui a été croqué, surtout. C'est
une forme de
en plus. Dedans. Ça symbolise la gourmandise de Cléopâtre.
D'accord, donc là on voit bien les deux passions qui se rejoignent. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après le grand final de Philippe Chany que les plus puristes d'entre vous auront bien reconnu. On s'était quitté en dessinant le grand projet de Cléopâtre quand elle arrive à Rome, c'est-à-dire de récupérer, on va dire, la construction du Colisée qui était mal parti. À ce moment-là, elle a quel âge quand le bâtiment se termine ?
Elle a 20 ans, elle est encore jeune, donc elle a construit le Colisée de ses 15 à ses 20 ans, et Marc-Antoine est ravi. C'est vraiment une réussite, il a vraiment le lieu qu'il avait imaginé, elle a réussi à concrétiser une idée que les Romains n'avaient pas réussi à faire en 20 ans. Et Marc-Antoine lui propose d'autres projets dans tout l'Empire romain. Elle réalisera l'Opéra de Venise, elle réalisera la Tour de Pise, qu'elle a voulu pencher, pour pas avoir, là, encore une fois, l'oblique, les formes géométriques qu'elle aborait. Et c'est là où ça, si je peux appeler ça une carrière, ça commence réellement.
Donc là, elle a vraiment un CV qui se complète d'année en année. Elle fait le tour de l'Italie. Bah... Elle construit en fait tous les grands bâtiments qu'on connaît et qu'on pense être issus du monde romain. En fait, oui. C'est elle qui est derrière.
Ah bah peut-être vous parlez de CV, c'est peut-être le CV dans le bâtiment le plus fourni de l'histoire. Effectivement, on attribue beaucoup de grands travaux architecturaux romains. Cléopâtre, je me permets de l'appeler encore Cléopâtre. Hein. D'ailleurs, c'est la préfecture romaine est beaucoup plus souple et lui permettra de se renommer ainsi, en tout cas dans l'Empire romain. Cléopâtre, effectivement, est derrière beaucoup de ces grandes architectures qu'on donne aux Romains. Elle réalisera l'aqueduc aussi, également. Oui. Quelque chose qui est pour le coup très symétrique, malgré elle.
Oui, mais qui symbolise la pluie qui tombe.
Oui, c'est vrai.
Et le viaduc de Milo également.
Oui.
Donc voilà, beaucoup de réalisations architecturales dans l'Italie, le sud de la France.
L'Empire romain, n'est pas beaucoup plus loin que les frontières de l'Italie d'aujourd'hui, hein, on le rappelle. Donc effectivement, elle voyage dans toute l'Europe, en tout cas l'Europe d'aujourd'hui.
Alors justement, c'est qu'on parlait dans sa jeunesse en Égypte, elle était plutôt vue, on va dire, de manière jalouse par les gens de son âge. Quel est le regard qu'on lui porte dans l'Empire romain ?
Dans l'Empire romain, finalement, elle attire beaucoup la sympathie. C'est rare que des personnes venant d'Égypte soutiennent les édifices et les projets de l'Empire romain. Donc, c'est vrai que Marc-Antoine lui donne une image somptueuse auprès du peuple. D'ailleurs, il insiste sur ce curriculum vitae, comme on dit, de l'Empire romain. C'est ici que naît ce mot qui donne le CV aujourd'hui, qui est vraiment d'une qualité pour lui invraisemblable. Et cette popularité, finalement, s'étend et atteint les oreilles du peuple égyptien.
Peuple égyptien qui réagit mal à cette annonce. Le peuple égyptien est en colère. Le peuple égyptien décide de faire détruire à ce moment-là tous les édifices que Cléopâtre a construits dans son pays, donc tous les édifices qu'elle a réalisés étant enfant.
Oui, vous parliez des représentations d'animaux qu'elle aimait, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Effectivement, ça date de cette période. Oui.
Mais qu'est-ce qui explique cette action-là ? Pourquoi est-ce que le peuple égyptien est si...
Faut imaginer le Colisée. Mm-hmm. Elle a quand même donné naissance au Colisée. Qui est l'emblème de l'esclavage à Rome. Il y a des esclaves égyptiens qui viennent mourir pour l'empereur au Colisée. Elle a beau avoir un beau curriculum vitae, ça fait tâche.
Et en plus de ça, faisant partie de l'ordre des ouvriers en bâtiment en Égypte, elle est censée faire profiter de son savoir-faire à sa nation, et elle s'est vue aussi comme une traîtrise, donc une double traîtrise finalement. Et c'est là où, en entendant que toutes ses œuvres ont été détruites, ces œuvres qu'elle portait dans son cœur, parce que pour elle ça symbolise la vie, ça symbolise la nature, et quand on le détruit, c'est une action forte à l'encontre de qui elle est. Et c'est à ce moment-là que, entendant donc qu'on détruit ses œuvres en Égypte, elle va voir Marc-Antoine et ensemble ils vont monter ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la mission Cléopâtre.
Donc la mission qui a pour but de la ramener en Égypte, c'est ça, pour essayer d'inverser, on va dire, le cours des événements.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Et elle utilise un stratagème pour ça, parce qu'elle n'est pas la bienvenue en Égypte. Mais elle fait fabriquer un grand cheval de plâtre que Rome va offrir aux Égyptiens. Et Cléopâtre était cachée à l'intérieur et ne se méfiant de rien, les Égyptiens acceptent ce cheval de plâtre dans leur territoire. Et la nuit venue, Cléopâtre peut sortir.
Très bien. Donc là, elle est revenue au pays. Ça paraît plutôt simple, décrit comme ça. Mais bon, faire un cheval aussi grand en plâtre, ça me semble bien compliqué.
Je peux rajouter...
Tout à fait, allez-y.
Il y a aussi que ce grand cheval en plâtre est poussé par deux Gaulois très très forts. Voilà, c'est les Gaulois qui sont à cette époque... considéré comme la population la plus robuste de l'Empire romain, deux Gaulois suffisent à pousser un cheval de plâtre jusque et même à traverser la mer. Ouais. C'est quand même très bel exploit. En nageant, il pousse en nageant.
Cocorico.
Coco.
Le cheval est creux et donc il flotte, c'est ça?
Ça aide.
Oui, ça aide. Qu'est-ce qui explique que bon, du coup les deux Gaulois eux peuvent rentrer sur le territoire égyptien? Sans plus de problèmes que ça.
Sympathique
et impressionnant physiquement. Les Égyptiens n'ont pas envie de prendre des risques et d'aller se frotter à la force des Gaulois.
Et puis imaginez-vous, Guillaume, un livreur vient chez vous, il veut vous offrir un cheval, vous le laissez rentrer chez... C'est une...
Oui, ça fait toujours une sculpture
intéressante. Vous le laissez rentrer pour poser ça dans votre salon.
Oui, tout à fait. Une petite déco.
Et mais voilà, la mission Cléopâtre n'était pas avait un but. Oui. Ça suffit. Le but n'était pas uniquement de ramener Cléopâtre en Égypte. C'était qu'elle puisse pleinement exprimer son art et se venger d'une certaine manière.
Donc une mission qui est juste une vengeance. Pourquoi?
Eh bien, en fait, derrière ce projet de cheval se cache tout un plan très très bien monté, où en fait Cléopâtre, à la nuit tombée, sort de son cheval de plâtre et elle se dirige vers le palais pour y être au petit matin. Et dès le petit matin, elle entre au palais et elle propose au roi d'Égypte d'entamer des travaux de rénovation. Donc, le roi, face à cette proposition, est plutôt mi-figue, mi-raisin. Cléopâtre n'est pas très acceptée en Égypte, mais en même temps, elle a quand même une image d'architecte incroyable qui a dépassé les frontières de l'Empire romain. Et donc, le roi se dit, pourquoi pas.
Le palais est délabré.
Et il n'y a aucun Égyptien capable de faire un travail correct sur ce palais. Ça fait plusieurs années qu'il cherche quelqu'un, mais il ne trouve pas. Il faut savoir qu'entre-temps, les parents de Cléopâtre sont décédés dans un chantier.
C'est vrai.
Accident de pyramide.
Oui, classique.
Cléopâtre détestait les pyramides, et ça n'a pas arrangé cela.
Non.
Fin de parenthèse, elle arrive à convaincre le roi et elle se lance dans des travaux monumentaux. Et de là, finalement, le peuple égyptien change d'avis sur Cléopâtre. Hein. Il voit le travail qu'elle fait, la qualité de ce qu'elle propose, l'esthétique avant tout du palais qui est en train d'avoir...
De connaître une nouvelle jeunesse.
De connaître une nouvelle jeunesse, exactement. Et après cela, elle se rend à la préfecture.
Le plan se met en marche.
Exactement.
La préfecture.
Elle n'a pas fait ça de manière altruiste. Le palais est somptueux, tout le monde est très content. Mais Cléopâtre connaît la loi, et particulièrement la loi du bâtiment en Égypte.
Elle va s'engouffrer dans une faille.
Et oui, elle a rénové plus de 60% du palais. Et du coup, lorsqu'on rénove un édifice à plus de 60%,
il nous appartient.
On en est légalement propriétaire en Égypte à cette époque.
Légalement propriétaire. Alors, cet événement qui est vraiment un coup de poker somptueux de l'Égypte, on en a fait des films. Oui. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Tu vois, là, j'étais avec mon petit papyrus
Ah ouais ?
En train de le lire. Hein.
Bah, dis donc.
Et je me suis dit, c'est marrant.
Oui.
Le palais, il est quand même vachement beau.
En ce moment, j'adore les petits animaux qui ont été taillés sur la façade. C'est
très joli, ça change.
C'est très new age.
Ouais. Oh, bonjour.
Bonjour.
Vous venez pourquoi? On peut vous aider?
Alors en fait, je viens pour réclamer la propriété d'un monument.
Je vous connais,
pas de soucis, alors...
J'ai l'impression de vous connaître, pardon.
Pourquoi?
Vous me rappelez quelqu'un?
Si je vous montre mes mains...
Oh. Des grosses mains, ça ne peut être que... Vous êtes Cléopâtre?
Je suis revenue, oui.
Oh, je pensais que vous étiez Imhotep, ma cousine, mais pas du tout.
Bah écoutez, c'est très surprenant, mais comment peut-on vous aider?
Eh bien, écoutez, j'ai fait des travaux sur un édifice et ces travaux dépassent le seuil de
60%.
Je vais chercher le document B12 sur les travaux dépassant les seuils de 60%.
Alors,
je reviens.
De quel édifice s'agit-il ?
Il s'agit du Palais Royal.
Pardon ?
Le Palais du Roi.
J'ai mis la main sur les petits documents.
Patréan ?
Oui.
Elle a rénové le Palais Royal à plus de 60%.
Oh mon Dieu.
Passe-moi le document B12.
Nous savons tous ce que ça veut dire.
Oh non.
La personne qui rénove un bâtiment à plus de 60% devient propriétaire.
Mais ce n'est pas tout.
Sauf
que... Le bâtiment royal.
Je vais chercher le document B13.
Oh non. Qu'est-ce que vous avez fait, Cléopâtre ?
Pharaon, j'ai le document B13.
Ne me dis pas que...
Celui qui évoque le fait que la détentrice d'un... Du palais royal devient automatiquement
le roi d'Égypte, ou reine d'Égypte en l'occurrence. C'est ça ?
Oui.
J'ai terminé ta phrase, mais...
Mais c'est complètement ça, Patréon. Non, c'est... Ah, Pharaon ?
Non.
Pharaon ?
Tu es Patréon.
Excusez-moi.
Oui.
Je serai reine d'Égypte.
Bah écoutez,
évidemment,
oui.
De toute façon, nous n'avons pas le choix.
Non,
Les règles sont les règles en Égypte, on ne peut pas y...
L'administration est bien trop stricte.
C'est... Ma reine, je m'agenouille devant vous.
Signez ce document et vous êtes officiellement reine.
Merci. Accompagnez-moi au palais.
Longue vie à Cléopâtre.
Longue vie à Cléopâtre.
Et voilà, c'est comme ça que l'Égypte se retrouve avec une nouvelle reine. Avec un coup de poker, on va dire, somptueux. Ça demandait d'être très précis sur les textes légaux de l'époque.
C'est rigolo que vous ayez trouvé cet extrait, parce qu'il est plutôt rare. C'est dans la version, la Director's Cut de Astérix Obélix Mission Cléopâtre.
Effectivement, parce que comme il est un peu précis d'un point de vue, on va dire, théorique, il n'a pas passé... il n'est pas passé...
Non, il a été coupé au montage.
Oui, non, c'était moins drôle qu'effectivement...
Voilà, mais comme ici, pour des raisons historiques, on se permet de l'utiliser.
Ben oui, c'est tout à fait ça. Donc effectivement, c'est très précis d'un point de vue historique, ce passage. Le document B12 et B13 indiquent ont respectivement donné la propriété du palais royal à Cléopâtre et lui ont donné aussi le titre de reine d'Égypte.
Juste pour terminer l'émission, l'Égypte a une nouvelle reine. Comment se passe son règne, justement ? Est-ce qu'elle renoue le contact avec son peuple ?
Ben oui, ça se passe très bien, parce qu'en fait, sa fantaisie, c'est tout ce qu'il fallait à l'Égypte. La première mesure, c'est qu'elle construit le Grand Sphinx, qui persiste encore aujourd'hui. On pense que le nez s'est effondré, mais non, encore une fois, c'est une volonté de sa part. Et voilà, un règne prospère sous le signe de la fantaisie, de l'art, de la nature, de la vie. C'est elle qui inventera les hiéroglyphes. Qui sont par définition des pictogrammes qui représentent tout ça.
Complètement asymétrique.
Et les gens l'adoreront pour ça, finalement.
Oui, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'une vengeance. Alors, il y avait cette idée de vengeance vis-à-vis de son peuple, de revenir et de devenir reine, mais elle s'occupait très très bien de son peuple.
Elle s'occupait très très bien de son peuple et elle le nourrissait. C'était un peuple aussi qui sortait d'une période difficile avec de la famine et elle redonna de la nourriture à tout son peuple. Tout le peuple pouvait se nourrir et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression une plâtrée. Lorsqu'on parle d'une plâtrée de pâtes, ça vient de Cléopâtre à la base.
On disait une cléoplâtrée à la base.
Une cléoplâtrée à la base.
Une cléopâtrée, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Cléopâtre. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.